RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis où nous venons d'évoquer l'obéissance pendant une heure. Et obéir, ça veut dire souvent, parfois, suivre des règles. C'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines et notamment dans le monde du sport. Et ceux qui font respecter les règles, ce sont les arbitres. Mais alors qu'est-ce que c'est l'arbitrage? Comment sont formés les arbitres? On en discute sur le terrain avec nos invités jusqu'à 11h. Soyez toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si vous avez déjà été arbitre dans votre vie et puis quel regard portez-vous sur le rôle de l'arbitrage dans le sport. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, on parlera aussi du patrimoine avec Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français qui nous emmènera ce matin en Bretagne à la découverte des ports, des amers et des phares de cette magnifique région. Ce sera à partir de 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, on aura le plaisir d'accueillir Cédric Marchat. Il est le président de l'UNAR, c'est l'Union Nationale des Arbitres de Rugby. Évidemment, c'est un joueur de rugby et arbitre. Pascal Bertrand également nous rejoindra, président de l'UNAT, l'Union Nationale des Arbitres de Tennis de Table, et avec nous déjà Patrick Vajda. Bonjour Patrick.
Bonjour Melchior.
Vous êtes le président de l'AFCAM, l'AFCAM 5 lettres qui signifie Association Française du Corps Arbitral Multisport. Et je précise également, Patrick, que vous avez été dans votre vie un escrimeur. Voilà, c'était votre métier.
Mon métier, c'est le management des risques et en particulier le management du risque sportif. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'arbitrage, bien que ça n'en soit pas si loin que cela.
Et vous avez pratiqué le fleuret hein, dans l'escrime. Qu'est-ce qu'on entend par là pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas peut-être assez bien ce sport?
Alors en escrime, il y a trois armes qui sont le fleuret, l'épée et le sabre, avec trois règles totalement différentes en termes de touches portées. Juste à titre d'exemple, on touche l'adversaire n'importe où sur son corps, de la pointe du pied au sommet du crâne. En ce qui concerne le fleuret, c'est juste au-dessus de la ceinture, y compris le pli des aines, oui. Moins la tête et les bras. Et au sabre, c'est juste au-dessus de la ceinture, y compris les bras, et la tête. Avec une particularité au sabre, c'est que c'est la seule des trois armes qui permet d'enregistrer des touches valables, qu'elles soient portées avec la pointe, comme c'est le cas pour le fleuret et l'épée, ou avec la taille et les stocks, c'est-à-dire le tranchant de la lame.
Et on va ensemble évoquer, Patrick Vajda, l'AFCAM, hein, cette association française qui a déjà quelques années. J'aimerais qu'on entre directement dans notre sujet, à savoir l'arbitrage, aussi le rôle des arbitres dans le sport. Qu'est-ce que c'est un arbitre, Patrick Vajda, pour vous?
Écoutez, je vais essayer d'être le plus simple possible. Quand vous allez sur un terrain de sport, sur quel qu'il soit, sport collectif, sport individuel, sport à jugement, vous n'avez que deux catégories de personnes qui sont totalement indispensables et obligatoires. D'une part, les athlètes. S'il n'y a pas d'athlètes, c'est pas la peine d'organiser une compétition. Et d'autre part, les arbitres, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, on ne peut pas organiser la compétition. Ce sont donc deux catégories absolument essentielles à la pratique sportive en compétition. Ça a d'autres intérêts, mais disons que le fondement, c'est ça. C'est qu'on est l'instrument qui permet de faire que le sport se déroule dans un cadre qui est celui des règles imposées par cette discipline. Premièrement, on essaye de les faire respecter. On tâche d'y parvenir, d'ailleurs, le plus souvent. Et c'est notre rôle essentiel. Les règles sont écrites par les fédérations nationales et internationales. Nous, on est juste là pour les appliquer et les faire respecter dans un climat le plus sympathique possible. Si on n'est pas là, on risque que cela dégénère en combat de rue.
Et est-ce qu'on, dans ce mot d'arbitre, arbitrage dans le sport, est-ce qu'on compte également les juges,
les juges? Tout à fait.
Oui?
Tout à fait. Le rôle du juge est un tout petit peu différent en termes de position par rapport au match, ou par rapport au combattant, ou par rapport à l'épreuve sportive considérée. N'empêche que c'est eux qui vont avoir un impact sur le résultat de la manifestation. Et c'est ça qui compte dans l'arbitrage ou dans le jugement, c'est ceux qui ont un impact sur le résultat. Le classement, les points, les notes, les coups de poing reçus, les touches reçues, etc., etc. C'est en cela qu'on est à peu près identique au juge. Et d'ailleurs, beaucoup de disciplines sportives mélangent les deux. Ce qu'on appelle des assistants aujourd'hui s'appelait avant des juges de touche en football. Donc, il y avait un arbitre central et des juges de touche. Idem pour la plupart des sports collectifs. Et puis, en escrime, on a nos assesseurs qui nous permettent de voir des problèmes spécifiques de l'arbitrage. Idem en boxe, où vous avez l'arbitre, qui est au centre du ring, et puis les juges qui sont tout autour du ring et qui permettent de noter round après round ce qui se passe réellement.
Alors, votre fonction au sein de l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral multisport, c'est de représenter, de rassembler aussi l'ensemble du corps arbitral en France. Ça fait beaucoup de disciplines, plus de 80 disciplines sportives différentes.
Oui, ça fait même un tout petit peu plus parce qu'il y a quelques fédérations multisports qui sont membres de l'AFCAM et qui sont d'une importance vitale pour nous, à peu près une centaine en réalité. Il y a, si ma mémoire est bonne, effectivement 87 ou 88 disciplines individuelles, sports pris individuellement et qui constituent une fédération française. Ça fait 238 000 personnes, il y a 238 000 arbitres en France, toutes catégories confondues. C'est-à-dire du débutant, du moment qu'il a passé un premier examen, jusqu'à l'arbitre international ou l'arbitre olympique. 238 000, parmi lesquels on a une population on tend vers les 31% concernant les femmes. C'est totalement insuffisant, mais c'est un énorme progrès parce que quand l'AFCAM a été créée, d'abord on n'analysait pas le problème masculin-féminin à ce moment-là, et c'est bien dommage. Mais on a démarré ce type d'études sur les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes qui arbitrent à peu près quelques années après la création, et on s'est rendu compte qu'on avait une dette énorme en matière d'arbitrage au féminin. On était aux alentours de 20%, parfois moins. Donc aujourd'hui, on est passé à 31, c'est pas mal, il faut encore accélérer. Et là où il faut surtout accélérer, c'est vers le haut niveau. En France, il existe une liste des arbitres de haut niveau. C'est, je crois, le seul pays au monde où cela existe, et c'est une liste qui est gérée par le ministère des Sports. Eh bien, dans cette liste, malheureusement, le taux femme-homme tombe à 22-23% de femmes, ce qui est totalement insuffisant, et ce qui signifie certainement quelque chose, non pas en termes de qualité, mais en termes d'examen et en termes de comment on peut pousser ces dames à continuer à arbitrer, à dépasser l'arbitrage régional, à passer au national, à l'international, etc., etc. Et puis aussi, de l'autre côté, ceux qui les jugent, ne sont-ils pas tous, ou beaucoup d'entre eux, des hommes, par exemple, ce qui fait qu'il y a peut-être une certaine réticence de leur part à augmenter le nombre d'arbitres féminins au plus haut niveau. C'est des questions qu'on se pose depuis déjà pas mal d'années, sur lesquelles on travaille globalement avec toutes les associations qui sont en charge de la féminisation du sport. Et pour nous, c'est vraiment un point essentiel, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, se plaindre du manque d'arbitres, et de l'autre, ne pas faire pour que la catégorie de la population la plus importante en France, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, on ne les mette pas dans les meilleures situations, ou dans la meilleure situation possible, afin qu'elles progressent.
Et on l'entend, ça fait partie des objectifs de l'AFCAM. Vous faites beaucoup de choses, on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble, Patrick Vajda. Un mot, vous avez dit 238 000 arbitres en France que vous représentez. Combien sont salariés, combien sont bénévoles? Car il y a beaucoup d'idées reçues aussi.
Il y a énormément d'idées reçues. Le nombre de professionnels, n'employons pas le terme de salarié parce qu'il n'est pas exact en matière d'arbitrage, dans la mesure où il y a des salariés et où il y a des professions qu'on appelle non salariés. Donc il y a les deux. Ceux qui vivent de l'arbitrage, c'est peut-être la bonne question, sont à peu près aux alentours de 350, maximum 380 personnes sur 380 000. Donc vous voyez, 380 000, on passe à 300, 350 qui vivent de l'arbitrage. Tous les autres sont considérés comme des bénévoles avec des catégorisations, c'est-à-dire que Il y a une loi en France, dont l'AFCAM est d'ailleurs très très fière, qui permet à tous les arbitres et juges sportifs qui touchent des indemnités d'arbitrage d'être exemptés de cotisations sociales et d'impôts si leur rémunération en qualité d'arbitre ou de juge est inférieure à 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Désolé de cette dénomination technique, mais il s'agit juste de 6 000 euros actuellement pour l'année 2023. Donc, si vous gagnez en indemnité d'arbitrage moins de 6 000 euros par an, vous n'êtes pas imposable. Et on a estimé que on est bénévole en dessous de cette limite. Ça fait pas l'ombre d'un doute, parce que gagner 6 000 euros par an de rémunération, alors même que vous avez un certain nombre de frais complémentaires, je vais passer sur le coût des patins, par exemple, pour les arbitres de hockey,
oui.
Sur le coût des tenues pour les arbitres où des tenues sont obligatoires, sur le coût des chronomètres parfois, des sifflets, etc. Sur le coût des chaussures spécifiques pour un certain nombre de disciplines. Donc je passe là-dessus. En dessous de 6 000 euros, c'est sûr que vous perdez de l'argent annuellement. Au-dessus, il y a plusieurs sports avec des rémunérations un peu supérieures qui peuvent monter jusqu'à 400-500 euros par match arbitré, par exemple, ou par journée d'arbitrage. Mais dans la plupart des sports, on tourne à des chiffres très inférieurs. Je vais vous donner une autre statistique qui est intéressante.
Oui, allez-y.
Nous avons 238 000 arbitres. Nous avons donc 350 professionnels maximum. Si nous les enlevons, ben, il reste toujours 238 000. Là-dessus, vous allez trouver environ quelque chose comme 40 000 arbitres qui ne touchent rien. Mais quand je dis rien, c'est même pas une indemnité de déplacement. Zéro. Ils y sont entièrement de leur poche. Ça, c'est la première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie, à peu près de 40 000 arbitres aussi, qui ne touchent que des indemnités de déplacement et de repas ou d'hôtel quand ils sont absents plusieurs jours. Donc ça fait déjà 80 000 qui sont vraiment de vrais bénévoles. Restent les autres qui, eux, vont toucher des indemnités d'arbitrage qui montent dans certains sports individuels, par exemple à 50, 60, 70 euros par jour, sachant qu'ils arbitrent qu'une journée ou deux journées, oui. Mais qui vont perdre une journée avant et parfois même une journée après, une journée de travail. Et que ça aussi, ça a un impact grave. Donc, ceux qui sont en dessous de 6 000 euros, je peux vous dire que ce sont vraiment des bénévoles.
Des bénévoles et des passionnés, je pense aussi. Et comme, voilà, vous, Patrick Vajda, et comme nos deux invités qui vont nous rejoindre. D'ailleurs, je vais vous présenter, et je pense que vous connaissez déjà, Pascal Bertrand qui vient nous rejoindre. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pendant quelques minutes sur RCF. Vous êtes le président de l'UNAT, c'est l'Union Nationale des Arbitres de Tennis de Table. Pascal Bertrand, pour commencer, comment vous êtes tombé, vous, dans la marmite du ping-pong aussi, qu'on appelle hein?
Ben écoutez, tout simplement, en tant que joueur, déjà, pour commencer, et puis après, en tant que besoin pour le club d'avoir des arbitres pour arbitrer des rencontres qui était à domicile ou à l'extérieur. Et donc voilà, après c'est vraiment devenu une vraie passion d'être arbitre et juge arbitre en même temps.
Comment on devient passionné par l'arbitrage?
Tout simplement, je pense qu'il faut des bons éducateurs qui, en termes de pédagogie, donnent envie. Et je pense que j'ai eu la chance de tomber sur un très bon éducateur. Et maintenant, je suis également éducateur et formateur en arbitrage, et j'essaye de donner du meilleur de moi-même pour transmettre cette passion de l'arbitrage à mes différents stagiaires.
Ce qu'on entend à travers vos témoignages ce matin, Pascal Bertrand et puis même Patrick Vajda, c'est que ça s'apprend d'être arbitre. Ça demande une formation de la part de l'AFCAM, peut-être?
L'AFCAM fait une formation, et après je pense que chaque fédération a également une formation qui leur est propre.
Oui. Patrick Vajda,
c'est fondamental que nous ne sommes pas à même, malheureusement d'ailleurs, on aimerait bien le faire, mais on n'en est pas capable de former à la centaine ou aux 90 disciplines sportives. Donc il faut des spécialistes. Je vous rappelle juste un point important. Il est dans la loi, il est inscrit dans la loi que l'arbitrage, la formation, les sélections, etc., etc., appartiennent à chaque fédération nationale. C'est dans la loi sur le sport. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder absolument en tête. Alors, quant à nous, oui, nous faisons des formations, mais spécifiques et globales. C'est-à-dire que notre but, c'est de réunir des arbitres de plusieurs disciplines, parce qu'on s'est aperçu qu'entre un arbitre de dressage, un juge de dressage d'un côté et un arbitre central de hand ou de foot, eh ben, il y a beaucoup de points communs. Ça peut paraître bizarre, mais pourtant c'est ainsi.
Pascal Bertrand, pourquoi, d'après vous, il est important de représenter les arbitres de tennis de table pour l'UNAT en tout cas ?
Ben, pour fédérer déjà d'une part, pour qu'on arbitre tous de la même manière. Je pense que d'avoir un arbitrage homogène partout en France, c'est important. Et bon, voilà, c'est la raison essentielle. Après, Patrick évoquait également le coût du matériel. Dans le cadre de notre association, on a une boutique qui permet aux arbitres de pouvoir s'équiper convenablement de matériel pour arbitrer, puisque dans les boutiques spécifiques de tennis de table, on va trouver du matériel de tennis de table, des raquettes, des balles, des choses comme ça, mais en aucun cas on trouve du matériel spécifique pour l'arbitrage.
Et dans le cas d'un match de tennis de table, on a besoin de combien d'arbitres et de juges ?
Par rencontre, il y a plusieurs parties. Et il y a deux arbitres par partie, c'est-à-dire il y a un arbitre principal et un arbitre adjoint.
Et ça, c'est pour tous les matchs de tennis de table ?
Alors, pour les matchs à partir de national en pro, oui, il y a deux arbitres. Après, pour les matchs qui sont au niveau même national et régional, voire départemental, un seul arbitre est nécessaire.
Et chaque arbitre, dans le cas où il y en a plusieurs, chaque arbitre a une mission différente qu'un autre ? Ou alors les deux sont complémentaires ?
Les deux sont complémentaires, mais chacun avec sa mission qui est propre. L'arbitre principal, c'est lui qui va contrôler l'identité des joueurs, c'est-à-dire s'assurer qu'il a les bons joueurs dans l'aire de jeu. Contrôler le matériel des joueurs, c'est-à-dire les raquettes, si les revêtements sont homologués, si la raquette est conforme aux conditions de jeu, faire le tirage au sort, le TOS comme on appelle, et puis comptabiliser les points. Et l'arbitre adjoint, il va s'occuper de tout ce qui est la partie matérielle, c'est déjà au niveau des aires de jeu de vérifier les séparateurs, la hauteur et la tension du filet, que la table soit propre. Et puis, il a aussi un rôle complémentaire. Si la balle venait à toucher de son côté et que l'arbitre principal, qui est de l'autre côté de la table, ne le voit pas, il signale que la balle est bonne ou la balle est faute à l'arbitre. Il a exactement les mêmes prérogatives que l'arbitre principal.
Je trouve ça intéressant parce que ça nous permet vraiment d'entrer dans les coulisses de certains sports qu'on aime parfois regarder à la télévision ou regarder quelques images sur les réseaux sociaux. Patrick Vajda, dans le cas de l'escrime, alors même question pour vous, comment se passe l'arbitrage ?
Alors, c'est un des arbitrages les plus complexes qui soient. D'abord, nous, on a la nécessité de vérifier l'ensemble du matériel des deux escrimeurs. Aujourd'hui, on a un certain nombre de systèmes électroniques qui font qu'il y a une vérification qui se fait d'une manière presque automatique. Il y a une chose que l'on doit vérifier, ça va vous surprendre, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que fait l'arbitre quand vous le voyez à la télévision. Il met un poids sur la pointe du fleuret ou sur la pointe de l'épée. Ça n'existe pas au sable, bien entendu. Et ce poids est différent selon qu'on est à l'épée ou au fleuret, et donc la pointe doit repousser ce poids. Si la pointe ne le repousse pas, l'arme n'est pas valable et l'escrimeur doit changer d'arme. Et entre-temps, d'ailleurs, il reçoit un carton jaune parce que c'est interdit de venir sur la piste avec une arme qui ne fonctionne pas. Ensuite, une fois que le combat commence, les principales difficultés sont dues d'abord au placement de l'arbitre. C'est assez complexe parce que nous bougeons avec les tireurs. Et nous sommes obligés de bouger avec les tireurs parce que nous avons des appareils électriques qui nous permettent de voir si la touche est effectivement arrivée ou pas. Ce sont des lampes qui s'allument, mais sauf que c'est nous qui prenons la décision de savoir si la touche est valable ou pas valable. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en position qui nous permet de voir et les lampes et les deux escrimeurs et de prendre une décision lorsqu'il y a plusieurs lampes. S'il n'y en a qu'une, c'est beaucoup plus simple. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, souvent il y en a plusieurs et c'est en cela que le rôle de l'arbitre est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il y a deux armes de convention sur les trois, C'est-à-dire que le sabre et le fleuret sont des armes dites conventionnelles. On doit respecter une convention tout à fait particulière qui donne la priorité à l'attaquant. Encore faut-il savoir lequel des deux attaque. Tout ça se passe parfois dans des centièmes, voire des millisecondes. Quant à l'épée, l'épée, elle est plus facile à comprendre pour tout le monde. C'est l'arme de duel. Ce qui compte, c'est de tuer l'adversaire, ou tout au moins de toucher. Et donc, c'est le premier qui touche qui a raison et qui coupe le circuit de l'autre. Donc, si j'ai forcément qu'une seule lampe, donc c'est relativement facile. Si j'en ai deux, c'est que les deux se sont touchés en même temps, dans un écart extrêmement infime. Et donc, les deux sont touchés. Et le score évolue de cette manière-là. La formation des arbitres, elle se fait sur le terrain chez nous, parce que bien entendu, il y a une formation réglementaire. Et c'est le terrain qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'apprendre, de monter dans les catégories de compétition. Des compétitions, faut pas croire que ce sont les Jeux Olympiques les plus difficiles à arbitrer. Parfois, des épreuves de tout petits gamins sont extrêmement compliquées parce que le mouvement qu'ils font ressemble que de très loin de l'escrime. Et c'est ça qui est très difficile. Et il faut pas les décevoir, ceux-là. Les gens qui sont aux Jeux Olympiques, on les déçoit pas, même si on se trompe. Par contre, les enfants, on les déçoit, et pour eux, c'est une injustice très grave. Et peut-être on les reverra plus jamais. Donc il faut vraiment se concentrer sur ces petites catégories.
Et vous l'entendez ce matin dans Je pense donc j'agis, on parle des arbitres dans le monde du sport, le rôle de l'arbitrage également. Et vous avez la parole pour en discuter avec nous. Peut-être que vous avez été arbitre ou que vous êtes arbitre d'ailleurs. Bah, venez nous dire ce que vous faites et quel regard vous portez sur ce rôle. Et puis également, quel regard portez-vous sur le rôle de l'arbitrage plus généralement dans le sport, si vous êtes consommateur, entre guillemets, de sport. On a envie de vous entendre au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos deux invités dans cette première partie d'émission, Patrick Vajda, président de l'AFCAM, l'Association française du corps arbitral multisport, et puis Pascal Bertrand, président de l'UNAT, l'Union nationale des arbitres de tennis de table. Vous représentez combien d'arbitres, Pascal, actuellement en France ?
Alors, au sein de l'UNAT, on est un petit peu plus de 600 adhérents pour 3500 arbitres et juges arbitres en France. En tennis de table, j'en parle.
Ce qui représente, Patrick Vajda, un sport assez où les effectifs sont nombreux par rapport à d'autres.
Ça fait partie des effectifs que je peux qualifier de moyens. On a bien entendu les grosses fédérations. J'ai les chiffres en tête. Le football, par exemple, qui est la plus grosse, parce que quand vous connaissez le nombre total de matchs à arbitrer dans l'année, vous comprenez pourquoi il y a autant d'arbitres. Ils doivent être aux alentours. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'on n'est pas loin des 30 000 à eux tout seuls. L'escrime, pour un autre exemple, est à peu près à la hauteur du tennis de table, alors que nous sommes beaucoup moins nombreux que les joueurs de ping. Mais on est un tout petit peu moins nombreux, 2006-2007, je pense. Y a des fédérations avec des nombres impressionnants. Je crois, de mémoire encore, la plus impressionnante, c'est le tennis. Très grand nombre de participants, donc d'athlètes d'un côté, et bien entendu très grand nombre de matchs puisqu'on joue qu'à deux ou au pire à quatre sur le court. Et je pense que le tennis doit être tout près, voire même devant le football. Franchement, si vous m'aviez demandé, j'aurais pris les chiffres avec moi. J'ai pas le détail. On est aux alentours de 27 000, 28 000 sur le tennis, tout court.
Patrick Vajda, on comprend aussi que le statut de corps arbitral a énormément évolué, continue d'évoluer, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'AFCAM et qui continue d'évoluer depuis 1985, l'année de la fondation de cette association, fondée par un grand arbitre. Et je crois que vous vouliez lui rendre hommage aussi ce matin, Michel Dailly.
Tout à fait. Michel Dailly est un monsieur qui a eu cette idée absolument géniale, qui paraît d'une simplicité biblique, et pourtant, à plusieurs, on est meilleur que tout seul. Alors, ça paraît bien entendu évident. En matière d'arbitrage, lorsque j'ai discuté avec lui pour la première fois, je lui ai posé franchement la question: tu es un arbitre de très haut niveau en football, je suis un arbitre de très haut niveau en escrime, nous n'avons aucun point commun. Ça a été ma première analyse, Soit quoi, il m'a dit, eh ben, réunissons-nous et on verra si c'est vrai. Et la première réunion, il n'y avait que 12 fédérations présentes. La première réunion de ces 12 disciplines sportives, on a immédiatement tous compris, en quelques secondes, que nos questions, nos problèmes, notre sentiment de manque de reconnaissance, etc., etc., étaient absolument communs et identiques. Et quand on a travaillé sur le statut de l'arbitre, puisque la loi a établi un statut, c'est une première mondiale et malheureusement nous sommes toujours le seul pays à avoir un statut officiel. Lorsqu'on a travaillé sur le statut, on n'a pas mis longtemps avant de trouver les principaux points qui nous unissaient, parce que énormément de choses nous unissent. Pascal avec le tennis de table alors le tennis de table et l'escrime, ça peut se ressembler peut-être un peu parce que c'est deux sports individuels.
Ah oui.
Mais si on ajoute à cela ceux qui arbitrent devant 80 000 personnes ou ceux qui arbitrent devant 30, on peut penser que c'est très différent. Mais non, on a la même pression, la pression de l'erreur. On a peur de notre propre décision. Ça se gère, ça. On apprend à le gérer. Et c'est vraiment fondamental de comprendre les points communs que nous avons tous ensemble, et ils sont terriblement nombreux, malgré des différentes disciplines, différentes règles, etc., etc., différentes langues même parfois, etc., etc.
Est-ce qu'il y a des sports que vous ne représentez pas, Patrick Vajda, en France? Alors, je parle par exemple des sports de mécanique, de voiture, de rallye, de Formule 1 peut-être?
Eh bien non, toutes les fédérations françaises, à l'exception de une seule d'entre elles, dont je ne vais pas vous donner le nom, même si vous me le suppliez, donc à l'exception de une fédération, toutes les fédérations françaises sont membres de l'AFCAP, y compris le sport auto. Il y a énormément, alors on n'appelle pas ça des juges, mais des commissaires. Donc les commissaires moto et les commissaires auto sont membres de l'AFCAP.
Et pourquoi vous voulez pas me dire quelle fédération n'est pas représentée?
Ça s'appelle de la délation.
Mais c'est un problème politique, c'est un refus.
Alors, j'ai essayé de discuter avec le président à 10 ou 15 fois et je n'arrive toujours pas à comprendre, donc je peux pas répondre à la question.
Je n'irai pas plus loin. Alors, vous inquiétez pas, Patrick Vajda. On parle de l'AFCAM ensemble, hein, l'Association française du corps arbitral multisport. Et vous l'avez dit, vous la représentez, cette association, au sein peut-être d'un réseau un peu plus international. On est bien placé par rapport à d'autres pays, même en Europe ou dans le monde. Est-ce que les arbitres en France sont, vous l'avez dit, le statut, c'est un vrai statut, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi bien représentés?
Eh bien, l'AFCAM ayant été créé en 85, comme vous l'avez dit, on a ensuite créé l'IFSO, la Fédération internationale des juges et des arbitres sportifs, c'est le mot anglais, International Federation for Sports Officials, a été créé beaucoup plus tard, puisque je l'ai créé en 2019. Et l'une des raisons qui a fait qu'on l'a créé, c'est qu'on s'est justement rendu compte que nos voisins européens ou ailleurs, tous les textes que nous avions, et en particulier le texte sur le statut, le texte sur, par exemple, la législation en matière de fiscalité, le texte sur la protection de l'arbitre, puisque l'arbitre est reconnu comme exerçant une mission de service public en France, tout ça n'existait nulle part ailleurs. Donc on s'est réunis, on est aujourd'hui une trentaine de membres dans cette fédération, qui sont à la fois des fédérations international et des comités nationaux olympiques, et on essaye de faire évoluer cette législation dans les différents pays du monde. C'est extrêmement difficile, et nous sommes vraiment assez mécontents du fait qu'on avance lentement et beaucoup trop lentement.
Patrick Vajda, vous restez avec moi pour Je pense donc j'agis. On accueillera Cédric Marchat dans un instant de l'UNAR, l'Union nationale des arbitres de rugby. Merci Pascal Bertrand d'avoir été avec nous pendant une demi-heure. C'était prévu. Président de l'Union nationale des arbitres de tennis de table, à retrouver sur le site unat.fr. Unat avec deux T évidemment pour tennis de table. Vous continuez de nous appeler ce matin pour nous parler du rôle de l'arbitre au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et nous parlons des arbitres ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. Et vous avez la parole. Dites-nous si vous avez déjà été arbitre dans votre vie. Parlez-nous de cette fonction et puis quel regard vous portez plus généralement sur l'arbitrage dans le sport. On vous attend au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne ou par mail à direct@rcf.fr.
À peine vu les douleurs, les déceptions, les questions sans réponse. À peine vécu, à peine cru au bonheur, à l'amour, au sourire, à l'inconnu. Tu ne connaîtras que la jeunesse éternelle. Attendre à la fenêtre, le pays des merveilles. J'ai retrouvé ta lettre, invoqué le grand ciel, à repousser la quête. J'en oublie ce que j'aime. La jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, où dansent les anges. À peine vécu, à peine vu, les couleurs, les odeurs, le soleil sur l'avenue. À peine vécu, à peine vu, les horreurs, la terreur qui s'abat sur l'avenir. J'ai déposé des fleurs, recompté les heures, comme un semblant d'espoir. Car je ne veux pas l'admettre, on était comme des frères sans se voir. On devait vieillir ensemble. Tu ne connaîtras que la jeunesse éternelle. Attendre à la fenêtre, le pays des merveilles. J'ai retrouvé ta lettre, invoqué le grand ciel, à repousser la quête. J'en oublie ce que j'aime. La jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, dans ce liaison emporté à jamais. La jeunesse éternelle, ami, amant. S'éloigne, je graverai le marbre, je planterai un arbre pour tous les souvenirs, l'enfance qu'on a perdue. La jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle, tout dans ce liaison emporté à jamais. La jeunesse éternelle, ami, amant, perdu dans le ciel. La jeunesse éternelle, ami, amant.
Jeunesse éternelle, c'était une chanson d'Abel à l'instant sur RCF. Et on continue de parler du rôle des arbitres dans le monde du sport avec nos invités. Patrick Vajda, vous êtes le président de l'AFCAM, l'association française du corps arbitral multisport. Et vous êtes également escrimeur, pardon, c'est dur à dire. Et nous a rejoint à l'instant Cédric Marchat. Bonjour Cédric. Président de l'UNAR, l'Union Nationale des Arbitres de Rugby. Alors, vous êtes également joueur. Vous avez été arbitre. Je crois que vous avez rangé le sifflet, d'ailleurs.
C'est ça, en juin 2022.
Oui.
2022, voilà, j'ai rendu le sifflet après une carrière enrichissante. Donc, voilà, il était temps de passer la main et de laisser la place à la nouvelle génération, à la jeune génération.
Et donc, actuellement, vous faites partie de cette association, de cette union. Ce n'était pas trop troublant pour vous de ne plus être arbitre, même si peut-être qu'on reste arbitre toute sa vie, mais pendant la Coupe du Monde de rugby?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un temps pour tout. Hein. Ça se prépare aussi, la pré-carrière. Donc moi, j'étais préparé et voilà, et ça s'est fait en douceur. Et aujourd'hui, voilà, je continue à voyager, on va dire, sur les terrains, puisque j'officie en tant qu'arbitre vidéo. Voilà.
Voilà. Donc vous n'avez pas vraiment quitté le monde du rugby. Comment on passe de passionné du rugby, Cédric Marchat, à ce rôle d'arbitre dans le rugby?
Alors il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs Il y a plusieurs, comment dire, profils. Déjà, c'est la passion du rugby, la passion de ce sport qui nous anime. Être arbitre, c'est être au cœur du jeu aussi. C'est participer, participer au jeu. Et au même titre qu'un joueur, ça demande beaucoup d'investissement, de préparation. Donc c'est un challenge, c'est une mission et c'est surtout une aventure humaine extraordinaire.
Patrick Vajda, on évoque souvent les valeurs partagées dans le monde du sport, les valeurs sur le terrain. J'ai le sentiment que c'est un peu pareil dans le monde des arbitres, c'est-à-dire qu'il y a énormément de valeurs, on va dire, de valeurs positives qui sont partagées par tous. C'est peut-être une condition d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est effectivement une véritable condition, l'honnêteté, l'objectivité. Un certain nombre de sentiments qui font que on ne fait pas de différence entre les adversaires qui sont 15 d'un côté ou 1 en ce qui me concerne ou 15 en ce qui ou 30 en ce qui concerne Cédric, mais au fond finalement on ne les voit pas, on ne sait pas s'ils sont blancs, noirs, rouges, verts, on ne sait pas quelle est leur religion et ça nous est complètement égal et c'est pas le problème. Donc il y a vraiment une véritable vision objective. On tente d'être objectif à 1000%, même pas à 100%. L'objectivité en matière d'arbitrage, c'est extrêmement compliqué. Parce que tout ce qui nous entoure, tout l'environnement de l'arbitre, c'est justement pour nous faire avoir une vision plus ou moins faussée de notre propre objectivité. Les bruits que vous avez par le public, les encouragements, parfois les doux noms d'oiseaux que nous recevons, nous autres, les arbitres, tout ça est fait pour que notre objectivité soit déformée. Mais cette objectivité, cette honnêteté, cette scrupulosité, c'est vraiment des éléments essentiels. Nous, on ne sait pas le genre ne nous intéresse pas, la couleur, je répète, ne nous intéresse pas, etc., etc. C'est vraiment fondamental pour l'arbitre.
Et ça, vous tentez de le dire beaucoup plus fort avec ce qui se passe parfois chez les supporters.
Alors, je ne vais pas donner la réponse des sports d'équipe et en particulier celle de rugby, mais en ce qui nous concerne, nous, d'une manière générale, le rapport entre l'arbitre et les supporters est quasi inexistant. Bien sûr, on entend ce qui se passe dans le public, mais c'est pas nous qui sommes chargés, par exemple, des sanctions sur les spectateurs. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Heureusement, on a déjà les joueurs, nous, c'est déjà beaucoup, c'est déjà compliqué. Mais les spectateurs, c'est pas notre rôle. Donc, même si nous entendons plein de choses dans le public, nous laissons à d'autres le soin de prendre ce type de décision disciplinaire.
Vous ne vous engagez pas donc sur ce sujet. Patrick Vajda, vous représentez l'AFCAM ce matin et vous l'avez dit, je pense qu'on peut le préciser, un des nombreux objectifs, parce que vous faites beaucoup de choses, c'est de faire valoir les principes de non-discrimination. Ça a été le cas dès la création de l'association.
Oui, dès le début, ça a été un vrai souci auquel on a pensé, et je dois rendre hommage une nouvelle fois à Michel Dailly, parce que c'est vraiment lui qui a mis ça sur le devant de la scène. On a commencé par le problème de genre, parce que je vous le disais, et on s'est aperçu que rien n'était fait pour l'arbitrage au féminin en 1985, et qu'il fallait absolument le développer. Et puis quand vous parlez de sexisme ou de féminisation, forcément, vous allez vers les autres problématiques de couleur, de religion, etc., etc. Donc oui, l'intégration par l'arbitrage, pour nous, c'est un point fondamental. Il se trouve qu'on enseigne dans beaucoup de régions de France et aussi d'ailleurs dans les DOM. J'ai beaucoup ça ne s'appelle plus DOM, mais territoire ultramarin.
Oui.
Et j'ai beaucoup de réflexions là-dessus, sur la couleur de peau, par exemple. Et on essaye de démontrer que la qualité de l'arbitre se fait par sa décision, par son esprit de décision, par sa connaissance du règlement. Enfin, un certain nombre d'éléments objectifs. Et certainement pas par le reste qui nous est complètement égal et qui n'a strictement aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'on promeut l'arbitrage au féminin. C'est pour ça qu'on promeut l'arbitrage des jeunes par les jeunes. Et le fait qu'on rajeunisse considérablement le corps arbitral, c'est très très important parce qu'on arrive dans des catégories d'âge aujourd'hui. Juste un exemple. Il y a quelques années, arbitrer une finale de championnat d'Europe ou de championnat du monde avant 35 ans, quelle que soit la discipline, je parle d'une manière générale, totalement impossible. Aujourd'hui, dans certains sports, alors les sports d'équipe, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais les sports individuels, on a des arbitres internationaux qui sont du niveau mondial et qui sont capables d'arbitrer une finale du championnat du monde qui ont 30 ans, 31 ans, 32 ans, voire moins parfois. Donc, c'est le fait qu'on ait rajeuni la population des arbitres, et nous y sommes pour rien, on l'a indiqué, et les fédérations ont fait le boulot, parce que sans elles, on n'est rien, hein, faut pas l'oublier quand même. Les fédérations ont fait un travail de rajeunissement exceptionnel. Pourquoi l'ont-elles fait? Je pense que c'est qu'elles ont elles-mêmes ressenti cette nécessité. Et quand on démarre avec des catégories extrêmement jeunes, le problème du genre, le problème de la couleur, le problème de la religion, etc., etc., tout ça n'a aucun intérêt chez eux. Nous, on enseigne à des enfants qui ont, on explique plutôt à l'arbitrage à des enfants qui ont 6, 7, 8 ans, qui sont des filles et des garçons de toute couleur de peau, de toute religion, et on s'aperçoit qu'ils comprennent tout à fait bien d'abord le rôle de l'arbitre, oui, le rôle du respect de l'arbitre, parce que respecter l'arbitre, c'est aussi se respecter soi-même et ses adversaires. Et ses adversaires, ils peuvent être très différents, mais on les respecte, parce qu'ils pratiquent le même sport que nous, en l'occurrence.
Cédric Marchat, allons ensemble sur le terrain, sur un terrain de rugby. Des millions de Français ont regardé cette Coupe du Monde de rugby. Alors c'était assez amusant, nous à la radio, on arrivait le matin, on disait ah, c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de règles extrêmement précises à retenir. Cédric Marchat, comment se passe l'arbitrage d'un match de rugby?
Mais déjà... Déjà, il faut connaître, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de règles. Donc déjà, la priorité numéro un, c'est de connaître ces règles pour pouvoir les appliquer ou les faire appliquer sur le terrain. Et ensuite, l'arbitrage d'un match de rugby, qui plus est au niveau professionnel ou international, c'est de longues heures de préparation, c'est de longues heures d'analyse. Au même titre que on le retrouve de plus en plus avec, comme le disait Patrick tout à l'heure, avec une génération très connectée, très branchée, mais aussi très travailleuse, qui exerce un travail de fond dans les préparations de match qui est considérable. Voilà, c'est là un petit peu la face cachée un petit peu du travail de l'ombre qui est réalisé par les arbitres. Voilà. Alors que ce soit au niveau amateur, et quel que soit le niveau, comme au niveau professionnel, aujourd'hui tous les matchs sont préparés par les arbitres et par les officiels.
Donc les matchs sont préparés, ça aussi je trouve que c'est très intéressant de le noter. Et alors quand on vit le match sur le terrain, combien y a-t-il d'arbitres, combien y a-t-il de juges?
Alors, tout dépend le niveau dans lequel le niveau de pratique. Hein. Sur du championnat amateur jusqu'à Fédéral 2, il est tout seul avec un représentant fédéral, c'est-à-dire une personne qui est sur le bord de la touche qui va l'aider, l'accompagner durant toute la partie pour tout ce qui est gestion des cartons s'il y en a, pour les remplacements. Et ensuite, à partir de la Fédéral 1, jusqu'à la nationale, il y a trois arbitres, donc un arbitre central et deux arbitres assistants, ainsi qu'un représentant fédéral aussi. Et après, dans le secteur professionnel, alors là, on est sur un arbitre central,
oui,
deux arbitres assistants, deux arbitres numéro 4 et numéro 5, que l'on appelle, hein, qui sont là pour la gestion des bandes de touche et des remplacements et le temps des cartons. Et ensuite vient l'arbitre vidéo. Voilà. Donc ça fait 6 personnes, 6 officiels, plus le représentant fédéral aussi dans le secteur professionnel, ça fait 7 personnes. Voilà.
Un mot sur l'actualité, puisque après la défaite de la France contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde de rugby, hein, c'était déjà il y a quelques semaines, l'arbitrage a été vraiment pointé du doigt, notamment par le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, qui avait vraiment mis en cause l'arbitrage en conférence de presse. Et je vais vous le citer d'ailleurs, c'était au lendemain. Il disait « Il y a des choses claires, évidentes à siffler qui ne l'ont pas été. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. » Alors, en réaction, Florian Grill, qui lui est le président de la Fédération française de rugby, n'a pas voulu faire la surenchère et n'a pas voulu porter réclamation. Et c'est vrai que l'arbitre a vraiment été pointé du doigt par bien sûr les Français qui ont perdu. Cédric Marchat, quel est votre regard sur ce qu'il s'est passé?
Alors vous savez, les réactions, bon, la réaction de notre capitaine, elle a été faite à chaud. Ensuite, voilà, je pense qu'il y a des spécialistes et des techniciens du jeu qui ont certainement dû analyser la performance de nos bleus. Après, vous savez, l'arbitrage, comme on l'a dit, l'arbitrage du rugby, notamment, est composé de nombreuses règles. Et souvent, et c'est même le cas, ça fait partie aussi du rôle de l'arbitre dans le rugby. Il y a beaucoup de règles qui sont liées à l'interprétation. Donc derrière, évidemment, ben, du moment qu'il y a une interprétation de la règle, ça peut générer forcément des incompréhensions ou
des frustrations aussi.
Ou de la frustration, parce que la personne qui est derrière l'écran aurait peut-être sifflé ou pas dans telle et telle situation. Voilà, donc du moment qu'il y a interprétation, mais forcément derrière ça ouvre des portes à la discussion et aussi à la frustration. Voilà.
Alors plus que la discussion, Patrick Vajda, c'était quand même des noms d'oiseaux envers le corps arbitral lors de ce match France-Afrique du Sud. C'est dommage pour vous. C'était une polémique qui n'aurait pas dû avoir lieu, Patrick Vajda.
C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je pense que discuter poliment d'une décision, c'est toujours possible. Quand j'arbitrais, j'étais tout à fait prêt à discuter et à expliquer ma prise de décision. Dans les sports collectifs, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, pourquoi pas discuter? Par contre, là où ça devient scandaleux, c'est j'ai entendu certains sous-entendus, c'est le cas de le dire. Attends, excusez-moi de ce français. Je vais pas parler de l'arbitrage de la France, mais de l'arbitrage de la finale. Wayne Barnes, qui est quand même le numéro un mondial, a été qualifié de doux nom d'oiseau, mais surtout certains ont même été jusqu'à remettre en cause son honnêteté intellectuelle. Vous savez, dans le public, vous entendez souvent les mots arbitre égale voleur. Ça ne me fait pas du tout rire. Je trouve ça invraisemblable c'est dramatique de pouvoir penser que quelqu'un qui a 30 ans de carrière ou 20 ans de carrière au plus haut et qui est arrivé au plus haut niveau mondial, qui est certainement aujourd'hui le meilleur, il peut faire des erreurs. Tout le monde en fait. Il n'y a pas un arbitre qui dit je n'ai pas fait d'erreur, ou alors il n'est pas un bon arbitre dans ce cas-là, s'il le pense. Mais par contre, mettre en doute son honnêteté, ça c'est vraiment dramatique. Et c'est ça qui est grave. Que Barnes ait fait ou pas fait d'erreur, j'en sais rien. Je suis pas arbitre de rugby, je suis pas là pour juger. Et puis de toute manière, je ne juge jamais les arbitres, même dans mon sport. Je ne le fais plus en tous les cas, parce que j'estime que nous n'avons pas, nous qui ne sommes pas de la discipline, ou bien qui avons trop de décalage par rapport à la réalité de notre propre discipline, parce que j'ai arrêté il y a quelques années, j'estime que nous n'avons pas à juger. Nous avons à nous comporter, à écouter, à essayer de comprendre la décision. Et puis, point. Et on enregistre. L'arbitre, il est maître à bord. Il faut pas l'oublier. Je pense que beaucoup de gens l'oublient. Tout ce qu'on a derrière un soi-disant problème d'arbitrage, toutes les discussions, tous les pages et les pages et les pages qui sont publiées dans différents journaux quotidiens et autres, à la télévision, à la radio et ailleurs, ça ne sert à rien. La décision est prise, elle ne changera pas. Et je pense que c'est quand même très très franco-français de continuer à discuter 30 jours, 40 jours, 50 jours après la défaite, pourquoi on a perdu. Mais on a perdu, c'est fini, n'en parlons plus.
Moi, je vous ai pas posé cette question pour qu'on a perdu, hein. Patrick Vajda. Mais c'est quand même important, je pense, de rappeler à quel point le rôle de l'arbitre est primordial dans un match, dans une rencontre. Et peut-être que ça peut vous servir de tribune aussi ce matin pour rappeler ça.
Oui, vous avez raison. Je le disais tout à fait en début d'émission. Il y a que deux catégories de personnes qui sont indispensables sur un terrain de sport. C'est les athlètes en tout premier lieu, bien entendu, et les arbitres. On peut faire un match avec l'absence de tous les autres, sauf quelques cas exceptionnels. Mais par contre, sans athlète, pas de sport et de compétition, et sans arbitre, pas de sport de compétition. Quand je dis ça au président de fédération que je rencontre régulièrement, ils me disent tous, mais t'as mille fois raison. Mais la reconnaissance que nous attendons de nos fédérations, nous l'avons pas toujours. Je dis, il y a des fédérations qui font un énorme boulot sur l'arbitrage. Mais dans beaucoup de fédérations, et je vais pas donner le nom une fois de plus, hein, ne croyez pas que je vais faire une dénonciation. Donc, on a l'impression en France que dans beaucoup de cas, c'est de la génération spontanée. L'arbitre se crée, j'ai un besoin, donc forcément, je vais le satisfaire, je vais toujours trouver un arbitre. C'est pas vrai, comme l'expliquait Cédric, c'est une énorme préparation. Et même quel que soit le niveau, même quand on débute, on doit se préparer, on doit comprendre les règles, on doit les apprendre, on doit peut-être faire de la vidéo dans certains cas pour mieux comprendre, etc., etc. C'est un énorme entraînement, c'est un énorme process pour partir du départemental et arriver éventuellement à l'international. C'est un gros travail. Et je pense que la reconnaissance qui devrait en découler, dans beaucoup de cas, n'en découle pas. Il a fallu se battre. Je vais vous donner un tout petit exemple. On attend 1992 pour que le mot « arbitre » soit prononcé dans la loi sur le sport. Jusqu'en 1992, et si ma mémoire est bonne, Madame Alliot-Marie, nous n'avons pas le mot « arbitre ». Dans ceux qui pratiquent le sport, il y a les athlètes et dirigeants, et rien d'autre. Et nous sommes ni l'un ni l'autre. Et il a fallu attendre 92 pour qu'enfin on prononce le mot juge et arbitre sportif qui a été créé à l'occasion de ce nouveau texte. Non. Et c'est invraisemblable.
Vous avez parlé de l'arbitrage vidéo et vous, Cédric Marchat, vous êtes un peu plus spécialisé maintenant sur l'arbitrage vidéo, qu'on appelle aussi le VAR, hein, l'assistance vidéo à l'arbitrage. D'ailleurs, on devrait plutôt dire le VAR si on traduit bien. Mais c'est devenu très important lors des matchs. C'est devenu même inévitable. Cédric ?
Oui, bien sûr. Surtout, bon, quand on connaît les enjeux qu'il peut y avoir sur les rencontres et que ce soit dans notre championnat domestique professionnel, tout comme sur les matchs de Coupe d'Europe ou international. Aujourd'hui, notre sport a quand même évolué. Voilà, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de vitesse. Hein. Le jeu a drôlement évolué et l'arbitrage vidéo aujourd'hui fait partie, on va dire, intégrante de l'arbitrage avec un grand A.
Bon, en tout cas, c'était une belle Coupe du Monde. Pour finir sur ce sujet de la Coupe du Monde de rugby, Cédric Marchat, pour vous.
Oui, bien sûr que c'était une belle Coupe du Monde. Ça a été, je crois, une Coupe du Monde réussie. On l'a vu, tous les stades étaient pleins. On a vu l'émergence de certaines nations. Donc, moi, je suis assez content de ce qu'on en a pu voir. Et j'espère que, voilà, eh bien, sur la prochaine, la France fera mieux et arrivera à soulever le titre.
Bon, on vous réinvitera à l'occasion pour en rediscuter. En tout cas, on entend le sport, hein, qui fait partie du patrimoine français. Et le patrimoine, justement, on va en parler tout de suite, le patrimoine de nos régions, pour être précis, avec notre chroniqueur. Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Bretagne à la découverte des ports, des amers et des phares de cette magnifique région.
Oui, dans une actualité où les tempêtes se succèdent sur le littoral breton, j'aimerais parler aujourd'hui d'une nouvelle initiative qui est portée par la Sauvegarde de l'art français pour mieux faire connaître le patrimoine de proximité. En fait, la Sauvegarde a lancé la semaine dernière sa nouvelle collection qui s'intitule Patrimonial, en partenariat avec le CMN et les éditions du patrimoine. L'objectif, c'est de porter un regard nouveau sur cet héritage commun que nous voyons tous les jours et qui est si cher au cœur des Français. Alors Patrimonial se consacre dans ce premier numéro à mettre en valeur le patrimoine méconnu et très précieux de la Bretagne. Et cette collection, elle donne la parole aux experts, aux chercheurs, aux conservateurs, aux artisans qui œuvrent pour la protection de ce patrimoine et aussi aux membres d'associations pour pouvoir explorer les trésors cachés de la région. Et elle offre aussi à contempler la beauté de la Bretagne littorale par des photographies de grande qualité, des illustrations, une mise en page soignée et surtout des données, des cartes qui guident notre exploration.
Et il y a tant à voir et à dire sur la préservation de ce patrimoine, mais aussi sur ceux qui l'ont inspiré.
Oui, j'avais quelques exemples des sujets qui sont traités dans ce premier numéro. Alors, un des trésors méconnus qui est évoqué dans les pages de la collection, c'est l'œuvre philanthropique, par exemple, de Jacques de Tézac, qui a créé les abris du marin pour aider les pêcheurs bretons. Ces abris qui étaient identifiables grâce à leur couleur rose. était conçu pour servir de lieu de repos sain, notamment en interdisant l'alcool et en proposant des sentences inspirantes qui étaient inscrites au mur de l'abri. Alors malgré le déclin de ces abris après la mort du philanthrope, on a encore celui de Sainte-Marine qui est resté ouvert jusqu'en 85 et qui a été transformé en musée pour témoigner de l'œuvre philanthropique de son fondateur.
Alors un patrimoine parfois inspiré par un idéal, Jacques, mais aussi issu de traditions séculaires.
Oui, une autre perle du patrimoine breton que nous évoquons dans ce premier numéro est ce qu'on appelle le port à pieux. En fait, c'est une méthode de mouillage qui remonte au 5e siècle de notre ère. Et de nos jours, il n'en reste que deux qui sont en Bretagne, préservés avec grand soin par les mairies locales qui veillent à renouveler les pieux pour éviter leur remplacement, notamment par des poteaux qui sont un peu faits de briquet de broc. Et en fait, à travers cinq grands axes qu'on a intitulés « Identité, bâti, mémoire, conservation et sauvegarde », cette nouvelle collection, elle entend révéler un patrimoine qui est profond et qui est proche de nous aussi, et loin aussi de l'image de simple image de carte postale qui, en fait, là, on incarne une identité humaine et culturelle qui est vraiment ancrée dans la Bretagne maritime depuis des générations.
Et à découvrir dans toutes les bonnes librairies ou sur le site de la sauvegarde de l'art français. Merci beaucoup Jacques de Chauvelin d'avoir été avec nous quelques instants pour nous parler de cette belle région, en l'occurrence la Bretagne. On salue d'ailleurs tous les Bretons nombreux qui nous écoutent chaque matin dont je pense, donc j'agis. En parlant de patrimoine, tiens, on va faire un petit pas de côté, Patrick et Cédric. Peut-être un lieu du patrimoine sportif que vous aimez particulièrement, Patrick Vajda, en France. Ça peut être un stade, une salle. La question n'était pas préparée, hein. Je tiens à le préciser avec vous.
Ah, c'est une. Moi, j'ai un amour particulier pour une salle magnifique à Montréal. Mmh. Ce qui était à la salle des Jeux Olympiques d'escrime à Montréal, qui est une salle magnifique, qui n'est pas du tout faite pour l'escrime, mais qui s'est transformée en salle d'escrime. Elle porte aujourd'hui le nom de l'ancien maire de Montréal, Jean Drapeau. Et c'est une salle qui, pour moi, est mythique, mais pour moi, parce que c'était mes premiers Jeux en 76 et que j'y ai fait quelques petites choses intéressantes.
Ben voilà, Montréal. On a peut-être des auditeurs aussi du côté de Montréal. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir partagé cela. Et vous, Cédric Marchat ? Cédric Marchat qui n'est plus là, mais qui a raccroché. Ben, on le remercie, en tout cas, Cédric Marchat, d'avoir été avec nous, président de l'UNAR, l'Union nationale des arbitres de rugby, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site unar.fr, tout simplement. Merci, Patrick Vajda, également, d'avoir été avec nous pour nous parler de l'arbitrage.
Merci à vous.
Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes le président de l'AFCAM, l'association française du corps arbitral multisport, dont on peut retrouver plus d'informations sur le site arbitre-afcam.org. Merci à Nathan, à Nicolas et Catherine et Maria à la réalisation ce matin de Je pense donc j'agis. On va se retrouver demain de 9h à 11h. On parlera à la fois de la santé masculine à l'occasion du mois de novembre, hein, Movember, et puis également de la santé féminine. On verra comment ces personnes qui ont vécu un cancer du sein, ces femmes, arrivent à vivre, à survivre, et puis comment est-ce qu'elles partagent également cette expérience aux autres. Merci pour votre écoute et à demain.